Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
C'est un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour, les salles de cinéma sont toujours fermées, mais à Cinérama, eh bien, on a pris le parti de vous parler eh bien, des sorties DVD, mais aussi eh bien, des sorties sur les plateformes de streaming. Et ça va être le cas aujourd'hui. Alors, ça va être entre pucelle et maquerelle. Guillaume, toi, tu vas te charger d'un film qui parle d'une pucelle.
C'est ça, même la plus célèbre de toutes, hein, c'est Jeanne d'Arc, mais la version de 1935.
Et puis Marine, elle nous parlera de la maquerelle, puisque le film Madame Claude de Sylvie Vered est sorti sur la plateforme Netflix. Quant à toi, Manu, c'est une histoire de vampire au féminin.
C'est une vampire avec le film de Abel Ferrara, The Addiction, qui sort chez Carlotta en Blu-ray.
La partie jeu de cette émission, eh bien, ça concernera un blind test, évidemment. Ce blind test sera sur la thématique des biopics, hein, toujours sur cette idée que là, on va parler de Jeanne d'Arc et de Madame Claude. Vous allez écouter 5 extraits de films. Il faudra bien évidemment en trouver les titres. Mais nous allons commencer cette émission avec bien le petit point d'actualité après eh bien la petite ouverture d'Emmanuel Macron lors de sa dernière intervention télévisée.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Et croyez-moi, ce ne sera pas long.
Le cinéma va repartir. Emmanuel Macron l'a promis le mercredi 31 mars. Entre la mi-mai et le début de l'été, il y aura l'instauration d'un calendrier de réouverture progressive pour la culture, le sport, les loisirs, l'événementiel et nos cafés et restaurants. Alors le dimanche qui a suivi, Richard Patry, président de la Fédération nationale des cinémas français, s'est réjoui de cette annonce sur France Info. Après plus de 260 jours de fermeture des salles, la perspective d'une réouverture permet aux professionnels eh bien, de se préparer. Alors c'est vrai évidemment pour les cinémas à travers tout le territoire, mais aussi pour les distributeurs qui ont la charge d'amener les films jusqu'aux salles. Et vu la situation, eh bien, un sacré embouteillage est à craindre, car si les cinémas sont fermés, les tournages, eux, continuent. Alors peut-être moins, hein, sûrement, mais selon Richard Patry, il y a 420 films en stock. Donc tous ne verront sûrement pas les salles. En attendant que les salles de cinéma rouvrent en France, la réouverture s'est amorcée début mars aux États-Unis. La campagne de vaccination est autrement menée qu'en France, si bien que dans les plus grandes villes, Los Angeles, New York, San Francisco, Dallas, Phoenix ou encore Chicago, eh bien les spectateurs peuvent prendre leur ticket et s'asseoir à bonne distance les uns des autres en gardant évidemment leur masque. Alors des petits films sont d'abord sortis pour essuyer les plâtres avant que les plus grosses productions n'investissent les écrans. Est sorti à la fin du mois, Godzilla vs Kong a engrangé 48,5 millions de dollars de recettes au box-office, dont 32,2 millions lors du week-end. Pour un film qui a coûté 200 millions de dollars, ça paraît insuffisant, mais c'est un chiffre qui a dépassé les espérances des producteurs. La Warner avait mis ses œufs dans deux paniers, puisque le film était sorti en simultané sur la plateforme HBO Max pour les spectateurs les plus frileux. Alors, autre pays où le film est sorti, la Chine, hein, car là-bas aussi la gestion de la maladie s'est faite différemment. Eh bien, en deuxième semaine, le monstre américain opposé au monstre japonais a permis d'engranger 71,6 millions de dollars en deuxième semaine, donc en totalisant un peu plus de 121 millions de dollars de recettes pour son premier week-end d'exploitation dans les 38 pays étrangers où il est sorti. Alors là, c'est hors États-Unis et Europe. Eh bien, ce film devient donc le plus gros succès pour un blockbuster américain en période de pandémie. Au total, ça fait 285 millions de dollars de recettes. Alors si la promesse d'Emmanuel Macron est tenue, nous verrons Godzilla vs Kong à partir du 19 mai en France. C'est ce jour-là qu'est programmé le blockbuster. D'autres films sont aussi programmés. Il y a Spiral, l'héritage de Saw, film d'épouvante américain avec Samuel Lee Jackson et Chris Rock. Délicieux, avec Grégory Gadebois, un cuisinier émancipé à l'aube de la Révolution française par Isabelle Carré. Il y a FL également, incarné par Romain Duris. Et enfin, l'un des nôtres avec Kevin Costner. Mais dès le 12 mai, hein, on trouvera 7 films de fiction à l'affiche, dont le dernier Guy Ritchie avec Jason Statham. Ceux qui étaient en manque de nions seront servis. Mais parlons maintenant eh bien, des films qui sont visibles sur les plateformes, notamment Netflix, qui a proposé un film français, Madame Claude, film de Sylvie Vered, un biopic de la proxénète la plus célèbre de France, Fernande Grudet, alias Madame Claude. Donc.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Vous avez une idée de génie.
prendre l'argent où il est.
Nous sommes à la fin des années 60 en France. La libération sexuelle n'est pas encore arrivée et payer de jolies filles pour coucher avec est une activité totalement banale chez les hommes de pouvoir. Bon, même si on ne peut pas vraiment dire que ça ait changé non plus 50 ans après. Madame Claude, de son vrai nom Fernande Gruet, est surnommée la maquerelle de la République et pour cause, elle a monté un véritable empire dans la prostitution de luxe. Mais elle ne fait pas que louer de jeunes femmes à des hommes riches, elle fraye aussi avec les gangsters, les flics, les politiques, se servant des filles qui travaillent pour elle pour exécuter des missions plus dangereuses, meurtres, chantage et jeux de pouvoir. Lorsqu'elle embauche une jeune prostituée, Sidonie, qui est par ailleurs un personnage fictif inventé pour les besoins de l'intrigue, elle est loin de se douter que c'est par elle que sa chute va arriver.
Allez, 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 rangez-moi tout ce bordel. Marlon Brando arrive dans 15 minutes. Allez, allez.
J'ai réalisé très tôt que la plupart des hommes nous traitent comme des putes. J'ai décidé d'être la reine des putes.
Hello, nice to meet you.
Il y en a même qui doutent de mon existence. D'autres pensent que je suis un homme. Pourquoi je vous engagerai ?
Si en 77, un premier film avait déjà été réalisé sur le parcours sulfureux de Madame Claude, la version de 2021, signée Sylvie Verhaed, laisse très peu de place à l'érotisme pour préférer une ambiance mi-film d'époque, mi-film noir, à la mise en scène classieuse et vintage, même si le film aurait sans doute gagné à opter pour un rythme un peu plus dense et un peu plus resserré. Si la voix off, celle de Madame Claude elle-même, résume à la fois son passé pour mieux justifier son présent et nous fait part de ses pensées pour mieux nous permettre de capter sa personnalité, ce procédé s'avère toutefois parfois un peu artificiel tant le jeu de Carole Rocher, dur et pudique, se suffit à lui-même. Elle interprète ici une Madame Claude indépendante, forte, voire sans pitié, mais qui a également peu de scrupules et peu de solidarité féminine et qui n'hésite pas à envoyer ses employés se faire violenter par des clients dangereux tant qu'elle prend ses 30% de commission à la fin.
J'étais devenue une institution. Quand on commence à faire de l'argent,
ça attire les chatailles.
Je me suis vue plus ou moins obligée de me coltiner les RG.
Il nous faut une fille de confiance, il est un peu... tordu. Vous êtes désormais au service de la France.
Donnant, donnant.
Les photos des diplomates sont parfaites, hein.
Mes filles ont tous les talents.
Et l'argent est tout payé ?
200 000.
Ça va pas ?
Un portrait de la plus célèbre des maquerelles racées et sans fioritures, donc, qui dresse également une peinture de la prostitution très réaliste, sans romantiser le plus vieux métier du monde, mais sans le diaboliser non plus. On appréciera que ce film de gangster soit presque entièrement féminin, avec des hommes omniprésents, sans vraiment être au centre de l'intrigue. Mais la galerie de personnages proposée par le film est sans doute trop étendue pour pouvoir espérer qu'ils aient tous un peu d'âme. Si l'ambiance de la joyeuse maison close, remplie de femmes sensuelles et légères, est très joliment mise en image, on ne saura pour autant rien de la vie ni de la personnalité de ces filles de joie. Ainsi, les prostituées, interprétées par Mylène Jean-Panois, Afferty ou encore Annabelle Belmondo, demeureront des incarnations bien vides. Et pour cause, tous les efforts de la scénariste et réalisatrice semblent avoir été concentrés sur le duo d'actrices principales Carole Rocher et Garance Marillier. Il est d'ailleurs un peu dommage qu'on leur imagine un amour lesbien et platonique, comme si la solidarité et finalement la complicité féminine se devaient d'être en permanence justifiées par le désir et non par l'amitié. Néanmoins, Carole Rocher réussit à rendre sympathique cette femme pourtant égoïste, arriviste, mythomane, froide et avide, en ayant enfin, à 46 ans, l'un de ses premiers grands rôles pour le grand écran, car Madame Claude, avant d'être repêchée par Netflix, devait bénéficier d'une sortie en salle. Avec une interprétation tout en force et en nuance, l'actrice réussit à créer chez nous une véritable empathie pour celle qui tombera comme Al Capone pour fraude fiscale et sera finalement arrêtée par la première des femmes commissaires, un comble pour celle qui a toujours évolué dans un milieu d'hommes, celle qui voulait, comme elle disait, prendre le pouvoir de l'intérieur pour le baiser.
Petite, je dis...
T'as pris trop de place, Fernande.
Je sais.
C'est quoi cette chose que tout le monde reçoit ?
Sois heureuse d'être toujours en vie.
Que l'on appelle l'amour. Il y aurait un
jour. Tu t'es fait beaucoup d'ennemis. Petit parle d'une affaire d'État. Vous comprenez ça ?
C'était dangereux d'être la maquerelle de la République.
Et cela fait.
Que rien ne pouvait m'arrêter.
D'être un jour désiré. Câliné, enlacé, enlacé.
La fin du départ, mon cul !
Change, Claude.
Mais pour le moment, c'est moi la patronne. Il me
caressera. Après la proxénète, nous allons maintenant parler de la pucelle, celle d'Orléans. Avec toi, Guillaume, c'est Jeanne d'Arc.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
Malgré le temps qui passe, l'histoire et ses mythes ne meurent jamais, comme nous le prouve l'une des dernières sorties d'Artus Film avec le Jeanne d'Arc de Gustave Hisicki, dernier né de leur collection Histoire et légendes d'Europe. Surtout qu'ici, il est question d'un film bien particulier, car il a été conçu dans un contexte franchement étonnant pour un récit censé faire la part belle à la France et à l'une de ses représentantes les plus connues. Ce qui sera l'occasion de comprendre comment une figure emblématique peut être reprise à peu près comme on le souhaite, tant la source première est et riche en interprétations. Das Mädchen Johanna, retitré donc sobrement Jeanne d'Arc chez nous, est un film de 1935. Sa première particularité est qu'il est, non pas le premier film consacré à Jeanne d'Arc, car le mythe a été immortalisé sur pellicule dès les premières années du cinématographe, mais qu'il est le premier film parlant consacré à la pucelle d'Orléans. La seconde particularité, et non des moindres, c'est qu'il est produit par le célèbre et influent studio allemand UFA, donc l'UFA, qui, dès son arianisation en 1933, va contrôler tout le processus créatif de ses films pour qu'ils soient conformes aux attentes et idées du parti nazi. Si ce contexte historique peut légitimement faire peur, il faut néanmoins préciser que dans toute cette production, tous les films ne seront néanmoins pas propagandistes et antisémites. Au contraire, les divertissements et épopées historiques comme Das Mädchen Johanna voulaient toucher un public très large et ne pas les étouffer dans un pensum trop sérieux. On préfère y vouer un culte aux grands hommes et femmes du passé et on laisse le public faire les connexions avec le présent qui s'impose presque d'elle-même. Alors, bien sûr, l'ombre du ministre de la propagande Goebbels plane forcément sur le résultat, mais nous ne sommes pas dans une production ouverte ouvertement politique et outrageuse comme le Juif Sus par exemple. Bien évidemment, la question que l'on se pose est « Mais pourquoi y a-t-il eu une récupération de Jeanne d'Arc par les nazis ?» Pour ce point historique, je cite David Hidlo, l'auteur du livre contenu dans l'édition d'Artus. D'abord, Jeanne est jeune, emblème de nationalisme et représente le sens du sacrifice. De plus, elle est d'origine paysanne et représente le sang et le sol. C'est donc un sujet politique et, par la force des choses, cinématographique pour Goebbels, qui avait particulièrement compris le pouvoir de la manipulation par l'image. Le film développe un parallèle entre la France d'alors et l'Allemagne de 1933, une tourmente politique terrible et dont le peuple attend l'émergence d'un sauveur national qui saura redonner une direction flamboyante au pays. Néanmoins, le film va volontairement prendre ses distances avec la réalité historique, au point d'attaquer les élites françaises bien plus que l'Angleterre, comme on pourrait l'imaginer. C'est que l'ennemi de 1935 est avant tout la France, et qu'il faut effacer le souvenir d'humiliation subie en 1918. À la réalisation, il y a un certain Gustav Hisicki, un Autrichien qui deviendra l'un des réalisateurs officiels du Troisième Reich et qui auparavant passait par les plateaux de Michael Curtiz avant que celui-ci ne parte à Hollywood signer des chefs-d'œuvre comme Captain Blood ou Robin des Bois. En tant que bon héritier de l'expressionnisme allemand, il compose une image de toute beauté et sait s'entourer d'une équipe technique experte déjà à l'œuvre sur le cabinet du docteur Caligari, les mains d'Orlac ou le fosse de Murnau. Jeanne en armure est accompagnée d'un halo sur le haut du casque comme une auréole. Les rues sont hantées par une brume quasi fantastique et les reflets sur les armures préfigurent les visuels marqués d'Excalibur de John Boorman quelques décennies plus tard. Mais, plus que tout, ce qui frappe à la vision de Das Mädchen Johanna est la manière dont est traité le cas de Jeanne qui est accusée de sorcellerie car la peste envahit la ville et décime ses habitants. On pense forcément au mémorable Aksane de Benjamin Christensen, film danois mythique de 1922 qui, sous des airs de documentaire au pédagogisme rigoureux, usait en fait de tous les artifices propres au cinéma pour montrer que la sorcellerie et les bûchers ne furent qu'une façon de soumettre les femmes. Il n'était pas bon d'être du sexe dit faible, surtout quand le prisme du patriarcat et de la politique rencontrait le religieux, et ce, même si on arrivait à libérer un pays de l'oppresseur. Donc pour toutes ces raisons, ce film, littéralement ressuscité d'entre les morts, mérite toute votre attention, celle d'une histoire complexe, et dont les questions constamment soulevées par ces mythes sont aussi immortelles que ses représentants.
Thank you.
Jeanne d'Arc de Gustave Husicki. Donc c'est un DVD sorti chez Artus avec un diaporama d'affiches et de photos et puis un livret de 80 pages rédigé par David Didlot qui s'intitule « Génon, Jeanne, la pucelle ». Ce film nous donne l'occasion de jouer un blind test spécial biopic.
Cinérama.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il, d'une blague ?
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Merci.
Les biopics peuvent alimenter de nombreux scénarios au cinéma. Nous allons donc jouer maintenant un blind test. 5 extraits à écouter, il faut deviner les titres. Il y a des choses faciles à mon sens et ça commence même très facilement, je pense.
Monsieur Hanna, que puis-je vous apporter en cette charmante après-midi ?
Bah en fait, Hector, voici le plan. Tu nous apportes 2 absolutes martinis. Tu sais comme je les aime, secs et sans glace. Et exactement 7 minutes et demie après, tu nous en apportes 2 de plus. Et encore 2 de plus, et tu continues toutes les 5 minutes jusqu'à ce que l'un de nous tombe raide.
Excellente stratégie, monsieur.
Non, pour moi, un verre d'eau sera suffisant, je vous remercie.
C'est son premier jour à Wall Street. Donne-lui un peu de temps.
Le loup de Wall Street ?
Oui, c'est ça. Le loup de Wall Street, réalisé par Martin Scorsese, sorti en 2013 avec Leonardo DiCaprio. Et puis là, c'était la scène, une des scènes avec Matthew McConaughey, qui n'a pas forcément un grand rôle. Hein. Adaptation de l'autobiographie homonyme de Jordan Belfort. Le film raconte l'ascension vers la fortune d'un courtier en bourse. Donc Jordan Belfort, interprété par DiCaprio. Et puis ses malversations au cœur des années 80, le menant à la chute et à une forme de rédemption. 3 millions d'entrées en France, c'est le plus gros succès commercial de Scorsese. Deuxième extrait pour ce blind test spécial biopic.
Vous avez des projets ?
Des projets, j'ai plein de projets, moi. Toujours plein de projets. Je vais faire fermer les QHS. Est-ce que moi, j'ai passé 5 ans ? Vous savez ce que c'est, 5 ans ? 5 ans dans les QHS ? Et je vais faire sortir de là tous les gars qui sont dedans. Moi, j'ai vu comment on brise les hommes, comment on les démonte, comment on les casse. Et si là-haut, là, monsieur Alain Perfit, notre garde des Sceaux, a pas compris, c'est que je suis un spécialiste en la nitroglycérine. Moi, s'il faut abattre quelques juges, je le ferai. Vous voulez des bandes abadaires en France ? Hein ? Ils veulent des brigades rouges ? Faudrait qu'ils se posent la question. Parce que moi, s'il faut aller dans un quartier là-bas, là, un truc avec les Palestiniens pour m'entraîner, je peux vous dire, je vais y aller. On va tout faire péter.
Trouvé !
C'est le Mesrine de oui. Jean-François Richer.
Oui. Mesrine, l'ennemi public numéro 1, c'est donc la partie 2 hein, du diptyque qui est sorti en 2008, sorti un mois après L'instinct de mort, donc qui était le premier volet. Et les deux films s'inspirent du livre autobiographique de Jacques Mesrine, le célèbre braqueur. D'ailleurs, on dit Jacques Mérine. J'aurais dû le dire, depuis le début. Ce deuxième volet s'attache donc au parcours de Mérine après son retour au Canada, son évasion de la prison de la santé. On y voit son intérêt pour la lutte politique et la focalisation des médias sur cette figure du banditisme. C'est 1,5 million d'entrées en France pour ce deuxième volet. Et puis ce sont 3 Césars. Hein. César du meilleur son, donc bon, ça c'est pourquoi pas. César du meilleur réalisateur pour Jean-François Richer. Et César du meilleur acteur pour Vincent Cassel. Oui, je sais que ce César du meilleur réalisateur pour Richet étonne quelques-uns ici dans ce studio. Troisième extrait pour ce blind test.
Mais il y a une petite chose qui me tracasse. Je suis actrice, bien sûr, mais avant tout, je suis une mère et une épouse. Alors, j'aimerais avoir des détails sur la façon dont vous allez tourner la scène de la douche.
À la commission de censure aussi, ça les passionne.
C'est juste que, enfin, au-dessus de la ceinture, je ne suis pas exactement une garçonne, alors...
Laissez-moi donc dissiper votre inquiétude, ma chère. Je tournerai la scène en plan très court, sous différents axes. Mm-hmm. Et c'est grâce au montage que nous aurons l'illusion de la nudité, l'illusion de la violence. Rien ne sera réellement montré. Mais bien sûr, le fait que vous soyez sous la douche contribuera à faire monter, disons, l'excitation.
L'illusion de la nudité à travers le montage, c'est...
C'est Hitchcock.
Eh oui, de Sacha Gervasi, avec la voix française d'Anthony Hopkins, qui incarne Alfred Hitchcock. Et le film revient sur le tournage du film culte Psychose. Et là, Hitchcock doit trouver des fonds, braver la censure, notamment la fameuse scène de la douche. Et puis, il doit aussi gérer les relations avec sa femme, Alma Reville. C'est seulement 241 000 entrées en France. Et pour le quatrième extrait de ce blind test, c'est un film qui a fait encore moins d'entrées.
Si Einstein a raison, ou si la relativité générale est exacte, ça veut dire que l'univers est en expansion, d'accord ?
Oui.
Ok, alors, si on inverse le cours du temps qui passe, alors l'univers diminue.
Exact.
Donc, imaginons que j'inverse tout le processus jusqu'au départ, jusqu'à voir ce qui se passe au commencement du temps.
Au début du commencement du temps ?
Oui. Tu vois, l'univers n'arrêterait pas de diminuer. Il gagnerait en densité, en chaleur, et nous serions...
Tu parles de remonter le temps.
Exactement, remonter le temps.
Remonter le temps.
C'est ce que tu fais, toi.
Perspective donc très réjouissante, c'est trouvé, Guillaume.
C'est une merveilleuse histoire du temps.
Oui, The Theory of Everything, en version originale, ce qui n'a rien à voir, effectivement. Film de 2015 de James Marsh avec Eddie Redmayne. Le film raconte la vie du physicien et cosmologiste Stephen Hawking, en particulier sa jeunesse. Il est adapté des mémoires écrites en 2008 par la première femme de Hawking. Et le titre en français fait référence à l'ouvrage phare de vulgarisation écrit par Hawking en 1988. 212 000 entrées en France seulement. Ce film-là a fait beaucoup plus d'entrées.
C'est la remise des diplômes. Ils vont se marier. Ce sont des enfants. Ils sont bêtes. Ils se savent innocents. Ils ne veulent de mal à personne. Je voudrais leur dire, arrêtez, ne faites pas ça. Tu te trompes de femme. Tu te trompes d'homme. Vous ferez des choses que jamais vous n'auriez cru faire. Vous ferez souffrir des enfants. Et vous souffrirez vous-même atrocement. Vous souhaiterez mourir. Voilà ce que je voudrais leur dire en cette fin de mai. Mais je n'en fais rien. Je veux vivre.
Alors, je peux donner des indices quand même. Hein.
Ça ne me dit absolument rien.
Alors, c'est un film qui est sorti en 2007. Ça ne va peut-être pas forcément vous aider. Alors, il veut partir. C'est un jeune étudiant brillant qui décide, après sa remise de diplôme, eh bien, de partir sur les routes et de rejoindre les étendues sauvages et peu accueillantes de l'Alaska pour vivre.
C'est Wild.
Oui, pour vivre en totale communion avec la nature.
Le film de Sean Penn, oui.
Oui, film de Sean Penn, donc sorti en 2007 avec Emile Hirsch et Kristen Stewart, toute jeune. Il est adapté du récit Voyage au bout de la solitude. Into the Wild, pour le titre original, écrit par John Krakauer en 96 et relatant l'histoire réelle de Christopher McCandless. Pour les entrées en France, c'est 1,4 million d'entrées. Ainsi s'achève ce blind test spécial biopic. Et si nous faisions une petite excursion dans la musique avec Gainsbourg, Vie héroïque, film de Johann Sfar.
Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois à trop forte dose. Je vois des éléphants roses, des araignées sur le plastron, me smoking, des chauves-souris au plafond du living room. Je bois dès que j'ai des loisirs, pour être sous, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir. Ces éléphants roses, ces araignées sur le plastron, systématiquement, ces chauves-souris au plafond, tous mes emmerdements. Je bois, je bois, je bois, je bois.
On termine cette émission avec The Addiction d'Abel Ferrara, film de 1995 avec une étudiante en philosophie qui est mordu par une femme et qui commence à développer des symptômes troublants de vampirisme.
Comment faites-vous pour choisir un film ?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Précisez.
Alors, en 1993, l'expérience douloureuse de Bonnie Snatcher a alimenté les allégations de certaines mauvaises langues décrivant un Abel Ferrara diminué et absent des plateaux, laissant à son chef opérateur talentueux, Boran Bazzelli, le soin de réaliser le film. Alors, ce qui laisse quand même un peu dubitatif au vu de l'exceptionnelle réussite de cette nouvelle variation du roman culte de Jack Finney. Alors, pas démonté après Snake Eyes, Ferrara poursuit dans la veine fantastique, mais cette fois loin des studios. Alors, pour une petite production fauchée, tourné en 20 jours sans aucune star, si ce n'est l'apparition, on va dire, méphistophélèse, à la fois brève et marquante de Christopher Walken. Alors, il revient en grande forme avec une œuvre radicale, maelstrom d'idées narratives et visuelles, où Ferrara jette en pâture à l'écran toutes ses idées narratives et formelles au risque de l'indigestion. Alors, The Addiction s'ouvre par un diaporama de photos choquantes montrant les exactions commises par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam et notamment celle insoutenable de corps décharnés d'enfants abattus gisant sur le sol. Ces images d'archives illustrent un cours de philosophie à la faculté de New York devant le regard médusé et fasciné de Kathleen, jeune étudiante en thèse. Alors, dès l'introduction, Ferrara pose les enjeux ambitieux et parfois confus de son film. Le mal est-il imputable à l'individu ou à la responsabilité collective de tout un système ? Fausse question théorique où Ferrara brouille les pistes pour désarçonner, provoquer un peu plus ses détracteurs qui ne peuvent que détester ce film qui affirme dès le prologue sa prétention apparente avec une ironie très maîtrisée. Alors par ailleurs, le film est bardé de références philosophiques, de Sartre à Nietzsche, en passant par Kant et Heidegger, dans une logorée de citations écrasantes où Ferrara se met finalement au diapason des étudiants qu'il observe. Les interrogations pertinentes sur la place du mal au cœur de la société cèdent aussi à des réponses qui partent dans tous les sens et brouillent la perception du spectateur pour une simple raison. La pensée de Ferrara est celle d'un artiste, pas d'un penseur ou d'un théoricien. Il feint de donner à son film une enveloppe, on va dire un télo new-yorkais. Or, au bout de 10 minutes, il rentre dans le vif du sujet. The Addiction ne sera finalement rien d'autre qu'un film sur la transmission du mal, sa circulation souterraine, à travers le parcours chaotique de la jeune étudiante qui en fait l'expérience. Alors, de façon malicieuse et quasi en trompe-l'œil, le cinéaste revient sur les rails du pur film de genre. Kathleen est mordue, elle éprouve une grande fatigue, perçoit intimement des changements dans son corps, elle perd l'appétit, se transforme progressivement en vampire. Ferrara obéit à la lettre, on va dire, au code du film de vampire, même s'il évince par souci de réalisme de montrer les canines acérées, les pieux et tout le petit décorum gothique des productions de la Universal ou de la Hammer. Voilà, il préfère suggérer, jouer sur les ondes expressionnistes, se référant explicitement à Murnau ou Jacques Tourneur. Alors après le grand sujet exposé sur le mal, il rentre par la petite porte et déroule son épatant film d'horreur symbolique, tournant évidemment autour de l'addiction. À la drogue, évidemment, mais au mal aussi, comme si les deux thèmes étaient intrinsèquement liés par le cinéaste lui-même, à titre personnel et non moral. La descente aux enfers de Kathleen, presque un alter ego de Ferrara, au point de lui ressembler étrangement lors de certains plans, s'apparente évidemment à un long shoot jusqu'à l'overdose avant la résurrection. Les égarements christiques du scénariste Nicolas St. John alourdissent parfois un récit foisonnant qui oscille constamment entre grotesque et sublime. La dépendance au mal, un sujet ô combien métaphysique, est traité un peu scolairement. Le parcours erratique de l'héroïne vers la lente inexorable destinée, plongée vers une souffrance qui se mêle à l'extase, atteint son paroxysme lors d'une extraordinaire séquence d'orgie, donnant l'illusion que le mal a contaminé une partie de l'humanité. Alors dans cette séquence, Ferrara dépasse le sujet et trouve une puissance cinématographique héritée des plus grands films d'horreur qui déroulent une vision du monde cauchemardesque. Alors, grand film de la dépression, introspection d'un cinéaste qui cherche un sens à son existence dans lequel il se livre corps et âme, dans son grand bazar chaotique, The Addiction prend des allures de confession, celle d'un artiste au bord du gouffre, tiraillé entre sa fascination morbide pour le mal et son désir de rédemption. Alors, il se révèle aussi, et surtout, je dirais, comme un immense formaliste qui, par ses choix esthétiques, parvient à transcender la lourdeur d'un scénario aux accents puérils d'une dissertation pour étudiants. Alors, la fluidité du montage déroulant les fondus enchaînés, raccord avec la photo blafarde des sombres de Ken Welch, filmant magistralement le monde de la nuit, révèle le meilleur de cette œuvre inconfortable, parfois maladroite, mais d'une très grande force cinétique, à commencer par la manière dont la ville de New York est filmée.
The Addiction, donc d'Abel Ferrara, est disponible en DVD et Blu-ray.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison ?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous racontez ?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est difficile de répondre,
comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie !
Wonder Woman 1984, nous sommes beaucoup dans ce studio à l'avoir déjà vu. On n'en a pas parlé lors de sa sortie en VOD, on le fera peut-être la semaine prochaine. Et on a peut-être même trouvé quelqu'un qui a aimé ce film.